Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 celui qui fut pendant le quinquennat de François Hollande, une partie en tout cas, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Il est aujourd'hui entrepreneur. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Arnaud Montebourg.
Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Bonjour Léa Salamé.
Et merci d'être à notre micro ce matin avant de parler de la présidentielle et de la remontada que vous allez défendre. Quelques mots évidemment sur Jean-Paul Belmondo, mort hier à l'âge de 88 ans. Son visage est à la une de toute la presse ce matin, qui célèbre une mythologie et un acteur typiquement français. Un hommage national lui sera rendu jeudi aux Invalides. Belmondo, que représentait-il pour vous ?
Pour moi, il est la France qu'on aimerait être toujours, voire être toujours finalement. Transgressif, culotté, séducteur, irrésistible, et en même temps capable d'exploits. Donc c'est ce qu'on aimerait que la France soit toujours. Voilà. Mmh. Pour moi c'est ça, Bebel, et évidemment il a ce côté à la fois intellectuel dans sa manière, la distance qu'il met, et en même temps totalement engagé. Donc c'est quand même très français et c'est magnifique.
Vous avez un film préféré ?
Moi j'aime Le Doulos. Par exemple, ouais. C'est un très beau film, un des ses premiers films qui est assez fondateur. On voit ce garçon qui s'ouvre et qui naît.
Allez, on passe à la politique.
La remontada.
Voilà, on y est. Vous avez pris votre décision, Arnaud Montebourg. Vous serez donc bel et bien candidat à l'élection présidentielle. Deux questions simples pour commencer. Quand avez-vous pris cette décision et pourquoi ?
Cet été. D'abord parce que je vois que mes idées sont devenues majoritaires, c'est-à-dire qu'elles sont le centre de gravité du pays. D'ailleurs, je suis très fier qu'il y ait beaucoup de gens qui les empruntent, mais je ne crois pas qu'ils les mettront en œuvre. Donc je crois qu'il y a une légitimité à vouloir apporter la vision, la méthodologie pour les mettre en œuvre. Le pays, par ailleurs, est quand même dans une passe assez difficile. Pour moi, il est au fond du trou. Sur tous les plans, quand on regarde nos clignotants, on est quand même très très mal.
Comment ça, au fond du trou ?
Écoutez...
La croissance revient...
Non mais d'accord, non, mais ça c'est du relatif, mais quand vous regardez...
On est la cinquième puissance mondiale, vous trouvez vraiment est au fond du fond du fond du trou ?
Écoutez, l'industrie est dans un état pitoyable, l'agriculture descend, nous avons 500 milliards de dettes accumulées en plus, nous avons une balance commerciale qui creuse encore, on a moins 85 milliards de déficit, vous avez la société qui se déchire, maintenant on a le racisme et l'antisémitisme qui courent les rues, l'ascenseur social bloqué au sous-sol, et en plus, la brutalité gouvernementale, la manière d'exercer le pouvoir, qui est une espèce d'isolement où on n'arrive plus à discuter dans ce pays, de façon horizontale et verticale. Donc quand vous mettez tout ça pour moi risque de se terminer chez Madame Le Pen. Voilà. Mmh. Donc ma décision, elle est essentiellement liée au fait que nous avons, et j'ai, avec tous les gens avec qui j'ai travaillé pendant toutes ces années, une proposition de remontada, c'est-à-dire comment on remonte ce pays. On le fait pas avec des promesses d'un homme providentiel, on le fait avec un leadership et une équipe. Qu'est-ce que le sens du mot remontada signifie ? Il signifie qu'on travaille ensemble.
Ouais, enfin, pour les supporters du PSG, la remontada, c'est le souvenir cuisant du moment où Barcelone les a battus à plate couture.
Mais peu importe.
Où l'avez trouvé, celle-là, remontada ?
Mais parce que quand vous dites « je veux remonter ce pays », on se dit « oui, on ne comprend pas ». Mais quand on dit « c'est une remontada », ça veut dire que quand la partie semble perdue, il est possible de réussir. Et surtout, ça se fait avec les ressources d'une équipe. Voilà, c'est ça l'esprit de notre de ce que nous avons.
Revenons Arnaud Montebourg sur le calendrier. Le 10 juin dernier, à ce micro, vous déclariez, je vous cite, aujourd'hui, je ne suis pas candidat le 10 juin, car je ne suis pas candidat à la multiplication des candidatures. Il y en a déjà beaucoup trop, mais je suis disposé à travailler à une candidature unique de la gauche et je suis disponible dans cette perspective. Vous dénonciez donc l'embouteillage des candidatures. Alors pourquoi ne pas avoir rallié, par exemple, Anne Hidalgo qui va se déclarer dans les prochains jours et qui, elle, a surtout derrière elle un parti qui la soutient.
D'abord parce que il y a beaucoup de candidats, mais il n'y a pas de projet. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il n'y aura pas de candidature unique. On le sait. Dès lors que Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'y a pas de primaire, il y a des primaires qui se multiplient partout, mais des primaires sur des candidatures multiples. Donc, de toute façon, il n'y en aura pas.
Mais pourquoi vous en rajoutez une ?
Parce que j'ai un projet. Et ce projet, c'est un projet qui vise à... assez inclassable d'ailleurs, qui vise à ramener dans le champ politique tous ceux qui ont été abandonnés et oubliés pendant ces années, et même abandonnés économiquement et oubliés politiquement. Voilà, les salaires, les territoires. Non, mais il faut qu'on en parle.
On va les décliner un par un.
Si vous voulez bien.
La réindustrialisation, puisque vous dites que vous étiez un des premiers à parler de réindustrialisation, c'est vrai, on vous l'accorde. Le Made in France, c'était vous. À l'époque, vous prêchiez un petit peu dans le désert. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est partout et tout le monde reprend ce thème de la souveraineté, de la réindustrialisation. Tout le monde, dont Jean Castex, qui disait encore hier à Lyon, il faut un choc de réindustrialisation. Nous allons investir massivement, a dit la ministre Agnès Pannier-Runacher. Emmanuel Macron lui-même avait reconnu une erreur fondamentale des gouvernements successifs de la France qui avaient pensé pouvoir faire un pays sans usines. Il veut mettre le paquet, il dit qu'ils vont mettre le paquet. N'êtes-vous pas convaincu par le volontarisme du gouvernement sur ce sujet ?
Ben écoutez, moi je considère que ça marche pas. C'est-à-dire que la méthode, la bureaucratie avec laquelle tout ça fonctionne, la haute fonction publique telle qu'elle aujourd'hui a pris possession du pouvoir, est incapable de le faire. Par exemple, comment ceux qui ont finalement mis par terre tous nos fleurons, Alstom, Technip, Lafarge, Alcatel, il faut les reconstruire. Ce sont ceux-là même qui ont déconstruit et même laissé détruire, qui prétendent qu'ils vont refaire. J'ai vu que le président de la République avait décidé d'ordonner à EDF de racheter certaines turbines d'Alstom qui avaient été vendues sous sa propre signature, autorisées par M. Macron lui-même, ministre de l'économie, des turbines vendues aux Américains. Donc, on rachète ce qu'on a vendu. Donc, en fait, pendant ce temps-là, on a perdu les brevets, on a perdu les emplois, les territoires ont été très abîmés par la vente à General Electric. Quel génie ! Quelle vision ! Donc, tout ça n'est pas crédible. Et personnellement, je considère que les 34 plans industriels que j'avais laissés derrière moi, qui auraient pu parfaitement être transpartisans et repris par mon successeur, Monsieur Macron, nous auraient fait gagner de nombreuses années sur les batteries et tout ce qui, aujourd'hui, est en train de faire, d'être fait en retard. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, aucune crédibilité. Mmh. Et surtout, je considère que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, vous avez une administration qui passe son temps à aller demander l'autorisation à Bruxelles de réindustrialiser, qui est contre, en fait. Voilà. Donc vous avez des industriels aujourd'hui qui demandent l'alignement sur les conditions de subvention en Pologne. On leur dit « Ah non, c'est pas possible ». Donc, en fait, ça fonctionne pas.
Pour que je comprenne bien, vous voulez faire quoi ? Vous voulez mettre des taxes nationales, vous voulez mettre des taxes sur les produits au niveau, aux frontières nationales ou aux frontières européennes, vous ? Parce qu'il y a une petite clarification.
Nous avons à construire une protection de l'Union européenne. Ça, c'est inéluctable. La taxe carbone, paraît-il, devrait intervenir prochainement. C'est une bonne chose si elle intervient. On va voir à quel niveau. De toute façon, on ne pourra pas continuer à être dépendant des deux grands empires. C'est le rôle de l'Europe de nous décoloniser du numérique américain ou de l'industrie chinoise qui, aujourd'hui, a pris possession de nos outils industriels.
Donc, vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne parce que beaucoup vous demandent de vous clarifier sur ça.
J'ai proposé un projet de 6e République dans lequel je pense qu'il est nécessaire de reprendre une part de notre souveraineté nationale en permettant, en dernier ressort, au Parlement français de corriger, amender et modifier tout le droit issu, ce fatras de directives. 60% de notre droit vient de l'Union européenne.
Ça s'est appelé le Brexit, ça s'appellera le Frexit.
Non, ça ne s'appelle pas du tout ça, parce qu'on a besoin de l'Europe. Ça s'appelle la subsidiarité. C'est-à-dire tout ce qui nous concerne, ça nous concerne, par exemple, quand l'Union européenne décide de privatiser nos barrages, de quoi elle se mêle ? Ce sont nos barrages, on les a fait avec notre sueur. Quand l'Union européenne nous dit « Vous avez le droit de sauver Air France en mettant 7 milliards sur la table, mais vous allez donner vos créneaux de décollage à Orly, au low-cost anglo-saxon », de quoi elle se mêle ? Orly, c'est chez nous, on fait ce qu'on veut avec Orly.
Mais qu'est-ce qu'on laisse à l'Europe, en fait ?
Eh bien, on lui demande de s'occuper de ce pourquoi elle est faite. Le climat, l'immigration, les empires qui nous oppriment, le numérique. Par exemple, on nous empêche de faire tout un tas de choses au nom de la concurrence. Mais Madame Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, a oublié de bloquer Google, qui a 95% du marché sur tous les pays européens. Qu'est-ce que l'Union européenne attend pour faire son travail ? Et donc, ma position est de dire, il y aura dans la 6e République la possibilité pour le Parlement de modifier et d'amender les décisions européennes en dernier ressort.
Il y aura donc une Europe minimale, minimaliste, réduite
c'est ce qu'avait dit
à ce qu'elle était il y a quand même plusieurs longues décennies.
D'abord, elle a été comme ça jusqu'en 1989.
Alors voilà, il faut revenir à avant 89.
Et ça n'a pas empêché l'Europe d'exister.
Mais
premièrement,
c'est la question que je vous pose.
Donc c'est une Europe rééquilibrée au profit des nations. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté, besoin d'Europe en haut, mais vous n'avez plus besoin d'intrusion européenne permanente en bas.
C'est ce que disait Nicolas, c'est le Frexit sans le dire,
non,
en fait.
Détrompez-vous.
Non, mais c'est
Salamé.
Pas ça.
Détrompez-vous. Le Frexit, pas ça. C'est un référendum, on s'en va. C'est pas ça.
Non, mais à l'époque, Jean-Luc Mélenchon, à la dernière présidentielle, il avait dit, j'ai un plan A, j'essaye de les convaincre, effectivement, de retrouver une forme de souveraineté, j'essaye de convaincre Madame Merkel, etc. Si ça marche pas, ce sera un plan B, Frexit. Vous, on n'est pas loin
non, pas
de ça,
du
en
tout.
Fait.
Mais non, pas du tout. C'est ni un plan A, ni un plan B, ni un plan C. C'est une stratégie visant à rappeler la suprématie de la Constitution et la souveraineté nationale. Alors vous aurez des majorités qui décideront de laisser le droit européen s'exercer, d'autres pas. Donc ça permet exactement ce que les Allemands rappellent toujours, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe rappelle toujours la suprématie de la Constitution allemande. Et ce n'est pas une honte, puisque finalement, l'Union européenne unit des États-nations. Voilà. Donc, je voudrais éviter la caricature. Moi, je suis un Européen, mais cette Europe-là ne marche pas. Donc, on a besoin, nous, de liberté, de faire cesser cette forme d'intrusion permanente dans la vie démocratique et nationale. Mmh. Et on a besoin, en même temps, d'une Europe très puissante face au chaos du monde et à l'angoisse mondiale sur le dérèglement climatique, par exemple.
Ouais.
Voilà. Mmh.
Il y a précisément une remontada de la planète que vous décrivez dans, ouais. dans votre programme, dans vos propositions, pour financer la transition écologique et ce que vous appelez les investissements de l'après-pétrole. Vous voulez nationaliser les autoroutes. Vous allez nous expliquer. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre délégué au transport, disait récemment qu'une telle nationalisation coûterait 47 milliards d'euros à l'État et serait une entrave à l'État de droit. Sur ce point, que lui répondez-vous? Est-ce que l'État a les moyens de faire ce que vous dites? Et la question est quand même pas minime, est-ce qu'il en a le pouvoir?
D'abord, la France a le pouvoir, le Parlement a le pouvoir dans la Constitution de nationaliser ce qu'il entend. Et il n'y a finalement pas d'autre instance en mesure de le décider. Donc c'est le Parlement, c'est dans la Constitution. Premièrement. Deuxièmement, donc il en a le pouvoir. Deuxièmement, les sociétés autoroutières dégagent 3 milliards de dividendes chaque année. Ces 3 milliards, je préférerais qu'on les utilise plutôt que, finalement, rémunérer des fonds d'investissement souvent étrangers, qui sont dans le capital des sociétés de concessions d'autoroutes. Je préférerais qu'on les utilise pour financer le véhicule électrique que les Français ne peuvent pas se payer, le ferroutage que la SNCF, dans lequel elle a désinvesti, ou tout simplement le retour des petites lignes SNCF sur lesquelles on a besoin de budget. Cet argent-là est nécessaire pour financer les investissements de substitution et de remplacement. Donc c'est d'un intérêt national. Après, les indemnisations, ben, c'est une négociation. Moi, pourquoi ce serait 47 milliards? Ils ont déjà gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont même rentrés globalement dans leurs investissements.
Ce serait quoi le chiffre juste?
Ce sera le plus bas possible, Madame Salamé.
Oui, pour une raison simple. Ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'il y aura une discussion, une négociation. L'indemnisation de principe est posée. Mais il n'est pas question que finalement on ne prenne pas en compte les profits qui ont été accumulés et réalisés depuis toutes ces années par les sociétés de concession d'autoroutes.
La remontada des salaires, c'est une autre de vos idées. Valérie Pécresse aussi veut augmenter les salaires, elle le dit, et elle explique comment elle le finance. Elle le finance par la baisse des cotisations sociales. Vous, comment comptez-vous, Arnaud Montebourg, contraindre les entreprises à augmenter les salaires, sachant qu'on est toujours aux dernières nouvelles en économie de marché, comme le dit le MEDEF, et que c'est pas à l'État mais aux entreprises de fixer le niveau des salaires?
Ben, c'est exact, mais ça ne suffit pas comme analyse. On a un problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus vivre de son travail. Je me souviens, avec mon équipe, nous sommes allés lire les cahiers de doléances. Il y en a eu 16 000. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Je me souviens de cette dame qui a écrit « C'est si dur de vivre avec si peu ». Donc aujourd'hui, c'était ça la révolte des Gilets jaunes. c'était d'abord une révolte sincère sur les fins de mois où les Français ont l'impression de pas pouvoir payer leurs factures. Donc aujourd'hui, le travail n'est pas honoré dans notre pays. Et dans les services publics, quand vous êtes prof, regardez les payes des profs, regardez d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger. Quand vous êtes soignant, il y a eu des revalorisations.
Mmh, enfin, c'est ce que j'allais
vous
dire.
Certains disent, oui, il y a eu des revalorisations. Dans l'aide à domicile aussi, reconnaissons-le. Mais est-ce que c'est suffisant? Lorsque vous êtes aujourd'hui caissière ou agriculteur, vous gagnez... en une année, moins que ce qu'un banquier d'affaires peut gagner en une seule
transaction.
Comment
contraignez-vous les entreprises, vous demandez Léa à l'instant?
Eh ben écoutez, c'est très simple, je vois une seule chose. Premièrement, une négociation interprofessionnelle, branche par branche, parce que dans certaines branches, dans la restauration, on fera des augmentations de 10% pour trouver des salariés qui viendront faire la plonge. Parce que c'est mal payé, c'est des horaires difficiles, et c'est très dur comme boulot. Donc évidemment, vous avez besoin de construire des négociations différenciées. Mais pour moi, entre 5 et 10% tout de suite, le SMIC n'y suffira pas parce que vous ne pouvez pas faire de tout le monde des SMICards. Mmh. Même si le SMIC doit recevoir une augmentation significative. Donc si on ajoute la négociation interprofessionnelle, c'est une sorte de Grenelle des salaires, comme il y a eu en mai 68. Et ça tombe bien, j'ai entendu le président du MEDEF dire les salaires vont, on va devoir augmenter les salaires. La question, c'est de combien? Mais la loi peut parfaitement se prononcer et ratifier ou corriger une négociation interprofessionnelle.
Arnaud Montebourg, avant d'aller au standard où nous attendent les auditeurs d'Inter, toujours dans votre programme, vous défendez une remontada des territoires. Avec cette proposition originale, vous voulez que l'État rachète le million de biens immobiliers vacants qui existent sur le territoire et les offre à tous ceux qui veulent quitter les villes, s'installer donc hors des grandes métropoles. N'est-ce pas là une proposition qui ne va bénéficier qu'à ceux qui peuvent télétravailler, les cadres, les membres de la classe créative, et en tout cas pas à ceux qui sont vissés à leur lieu de travail?
Il y a 10 millions de Français dans toutes les couches sociales, pas seulement les cadres ou les cadres sup ou ce que vous appelez les professions créatives, qui rêvent de quitter, de changer de vie, d'aller s'établir ailleurs, dans les petites villes, dans les communes rurales. Et ce rêve, je pense qu'il faut le réaliser, parce que de l'autre côté, dans les régions qui ne sont pas tendues, et même ce que moi j'appelle la France des sous-préfectures, dont je suis issu, où je suis né, qui est mon parcours politique et mon parcours personnel, il y a plusieurs centaines de milliers, mais nous avons évalué avec l'INSEE 1 million de biens vacants. On ne sait pas quoi en faire, ce sont des maisons qui tombent. On va faire un petit peu ce que finalement les Italiens ont imaginé pour l'Italie du Sud. L'État rachète. Il offre gratuitement aux personnes qui n'ont pas déjà une propriété. Donc c'est un programme d'accession à la propriété pour ceux qui n'en ont pas. À condition qu'ils rénovent, à leurs frais bien sûr, donc c'est pas gratuit, et qu'ils l'habitent durablement. Il n'y a pas que le télétravail, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas pourvus. L'autre jour j'étais dans le Morvan, dans une entreprise de sapins de Noël. Elle dit, moi je cherche 40 employés, je ne les ai pas. Je ne les trouve pas. Donc, il y a beaucoup d'emplois, mais ce sont des emplois
Arnaud
différents.
Montebourg, il y a aussi beaucoup de questions. Des manifestations contre le pass sanitaire ont eu lieu tout l'été. Celle de samedi dernier a marqué un léger recul dans la mobilisation, mais il y avait toujours du monde, 140 000 personnes. Est-ce que vous êtes favorable au pass sanitaire?
Je trouve que c'est mieux que le confinement, quand même. Je suis favorable. D'abord, moi, je suis vacciné. J'ai eu le Covid, ça a été difficile. Et donc, je conseille à tout le monde de se faire vacciner. Je suis favorable au pass sanitaire parce que c'est mieux que le confinement qu'on a subi qui détruit l'économie. Néanmoins, je pense que on n'y arrivera pas par la contrainte, mais par la conviction. Donc, on a un problème de confiance dans l'expression politique. Et le débat scientifique a été maltraité pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait des alternatives à la vaccination pour ceux qui ne l'acceptent pas? Je comprends qu'on puisse ne pas accepter aussi d'être vacciné. Et de ce point de vue-là, je suis un peu désolé, mais la question des traitements, il y a aujourd'hui des tas d'associations de médecins de terrain qui travaillent sur les traitements et qui ont des résultats. Pourquoi on ne les a pas mis finalement en discussion avec la solution vaccinale? Ça aurait permis peut-être de couvrir toute la société. Donc moi, je suis pour le pluralisme dans la discussion politique, et y compris sanitaire.
Laurent est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Montebourg.
Bonjour Monsieur.
À toute l'équipe de France Inter, toujours aussi formidable.
Merci.
Moi, la question est très simple. Vous avez dit et redit que vous abandonniez la politique, en crachant aussi souvent dans la soupe. Vous aviez annoncé à l'époque que vous voteriez Hamon, et finalement vous avez avoué il n'y a pas longtemps que ça avait été Mélenchon. La question est très très simple, surtout que vous venez de l'évoquer. Comment peut-on vous faire confiance? Et ne sortez pas, s'il vous plaît, vos histoires de cuillettes, de champignons, d'assistance aux pompiers pendant que la forêt brûle. Voilà, merci.
Merci Laurent pour cette question que je transmets à Arnaud Montebourg pour réponse.
Bah, écoutez, je vous remercie de la franchise de vos propos. Vous pouvez me faire confiance sur au moins un point, c'est que je n'ai pas varié dans les propositions que j'ai toujours faites depuis 20 ans. La 6e République, j'ai écrit la Constitution de la 6e République avec une équipe de juristes il y a 21 ans. Le Made in France, ça fait 10 ans et dans que je l'ai porté au gouvernement et dans mes entreprises, je l'ai mis en œuvre modestement. Hein. Soyons très nets, ce sont des petites entreprises. J'ai d'ailleurs un métier qui me passionne.
Continuez d'ailleurs ou vous êtes mis en suspens?
Bien sûr, je suis pas aux fonctionnaires, inspecteur des finances, payé à faire de la politique. J'ai un métier, j'ai un travail.
Vous continuez à vendre du miel et vous êtes candidat.
J'aurai une journée de travail maintenue pendant la campagne par semaine pour pouvoir. Je me suis organisé avec mes associés, les salariés de toutes les entreprises. Donc la constance et rectiligne de mes propositions devrait peut-être, je crois, vous interpeller, monsieur.
Bernard, au standard. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour, monsieur Montebourg.
Bonjour monsieur.
Ma question est, votre candidature, qui va s'ajouter à la multitude de candidatures à gauche, va conduire inexorablement à la présence de monsieur Macron au deuxième tour. N'est-il pas encore temps d'être raisonnable, de mettre les égaux de côté, d'essayer de construire une union de la gauche, si possible, si autant possible que cela soit possible, pour que le peuple de gauche puisse avoir un candidat au deuxième tour et pas souffrir encore pour 5 ans du macronisme.
Merci Bernard pour cette question très politique. Arnaud Montebourg vous répond.
Écoutez, moi je considère qu'il y a aujourd'hui impossibilité d'établir l'union de la gauche. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon dit c'est impossible, ce qui a été envisagé dans la première période, donc on sait qu'il y aura plusieurs candidats. Donc ma proposition, pour moi, elle s'adresse à la France, et y compris ceux qui sont les oubliés de la politique, et qui ont été oubliés aussi par la gauche, bien sûr par la droite, mais aussi par la gauche.
Jean-Luc Mélenchon, sur Jean-Luc Mélenchon, vous avez des mots durs. Vous disiez à notre micro il y a 3 mois, c'est le problème de la gauche, il est le problème de la gauche. Vous dites ce week-end, il ne gagnera pas et il le sait. D'où vous savez qu'il gagnera pas?
Ben, je crois que ses excès, sa radicalité, dans laquelle d'ailleurs il a poursuivi son parcours, ne rassure pas et donc ne permettent pas de rassembler des millions de Français pour nous permettre d'être au deuxième tour. C'est la raison pour laquelle je suis candidat. Je propose un certain nombre de points. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns en commun. Par exemple, les salaires.
Non, mais ça,
c'est un
parler.
Sujet
oui,
central.
Lui aussi veut augmenter les salaires.
La fin, finalement, de cette République qui donne le pouvoir à un seul. Je suis favorable, par exemple, au septennat non renouvelable, unique. C'est un point très important. Je propose d'être le dernier président de la 5e République. C'est une...
Lui aussi,
oui. Mais c'est le point commun que nous avons.
Bernard, vous disiez que la gauche allait perdre de manière sûre et certaine si elle était dispersée. Ce sera la défaite en chantant et non pas la victoire en chantant. Arnaud Montebourg,
je ne crois pas.
Répondez sur ce point-là, qui était le cœur de l'intervention de Bernard.
Ma position, elle est de parler une majorité sociale. Aujourd'hui, cette majorité sociale, elle peut former une majorité politique sur un projet qui est un projet que moi j'appelle remontada, qui est un projet de remontée du pays dans lequel les Français peuvent personnellement se situer. Donc moi, mon camp, c'est la France. C'est pas seulement la gauche, c'est la France. Et mon projet est un projet inclassable et inédit. Et de ce point de vue-là, il s'adresse à tous les Français. Et je pense que l'ensemble des Français qui écoutent, et je leur demande d'écouter les projets, de voir comment on peut les faire triompher, ils peuvent se rassembler autour d'un projet collectif. C'est ce que je propose.
Quoi qu'il arrive, vous irez jusqu'au bout?
Je suis parti, c'est pas pour faire demi-tour, madame Salamé.
Allez, merci.
Merci Arnaud Montebourg. Merci d'avoir été au micro de France Inter. La revue de presse à suivre.